atelier de cette saison, qui est consacré au portrait. Et nous avions tenté la semaine dernière de répondre à une question qui était « Qu'est-ce que c'est qu'un portrait ?» J'avais eu les yeux un peu plus gros que le ventre et nous n'avions pas tout terminé. Il nous restait quelques tableaux à voir. Alors je vous propose que nous commencions cette séance en terminant celle de la dernière fois et que nous regardions rapidement les quelques tableaux que nous n'avions pas eu le temps de voir la dernière fois avec encore une fois cette question, qu'est-ce que c'est qu'un portrait ? Et pour bien nous remettre dans le bain, après avoir vu rapidement ces quelques 8 ou 9 tableaux que nous n'avions pas vus jadis, je vous ferai un tout petit bilan de ce que nous avions évoqué la fois dernière. Et puis après, le gros de cette séance sera consacré à une autre question qui est celle de la fonction. À quoi sert un portrait ? Telle sera la question qu'on va se poser aujourd'hui. On verra que là aussi, c'est peut-être pas aussi évident ou simple qu'il y paraît. Et ce sera donc le point sur lequel nous allons nous concentrer aujourd'hui. Mais commençons par le début et par voir au-delà de nos petites règles habituelles que vous connaissez tous. Commençons à voir les quelques œuvres que je n'avais pas eu l'occasion de vous montrer la dernière fois. Et en particulier, nous en étions restés, vous en souvenez, à ce tableau d'ailleurs fort célèbre. Et encore une fois, la question, c'est portrait ou pas portrait. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette œuvre-là ?
Portrait.
Mais ce portrait, il a quelle particularité ?
Double.
Il est double. Hein. Vous avez effectivement un double portrait, il y a deux personnages. Et puisqu'on avait essayé la dernière fois aussi de créer une sorte de typologie des portraits, vous vous rappelez de cela, et j'aurai l'occasion de vous refaire un petit bilan de tout ça tout à l'heure, hein, pour voir ce qu'on avait finalement pu travailler. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur le portrait, sur le type de portrait que vous avez devant vous ?
Très réaliste,
hein, pour une raison simple. Voilà, le nez, n'est-ce pas, qui est affligé. Alors, il y a des gens du corps médical ici, mais qui ont peut-être d'autres spécialités, qui ne sauront pas peut-être forcément de quoi il en est, de quoi il en retourne. Mais on connaît hein, ce genre de problème qui est tout à fait médicalement, je dirais, précisé. Et donc, on a là, n'est-ce pas, un portrait, en effet, marqué par un réalisme très, très puissant. Est-ce que vous savez, par hasard, quel est l'auteur et peut-être la période de ce portrait-là ?
C'est Giordano ?
Pardon. Alors, ce n'est pas Giordano,
c'est
15e. Ghirlandaio, c'est ça. Hein, c'est une œuvre de Ghirlandaio, et donc une œuvre, effectivement, du 15e siècle. Et ça ? Alors, encore une fois, un portrait, pas portrait. Qu'est-ce qu'un portrait ? C'était la question qu'on s'était posée et que nous continuons à nous poser aujourd'hui. Représentation, portrait. Représentation, et représentation de quoi ? De qui ? D'un liseur. Et ce liseur qui est ici représenté.
C'est un
saint, non ? Oui, c'est effectivement un saint. Qu'est-ce qui d'ailleurs vous le montre ?
Bah, c'est écrit dessous.
Voilà, il y a effectivement un petit cartel. Eh oui. Eh voilà, un tableau, il faut tout regarder. Il y a effectivement un petit cartel en bas. C'est saint qui d'ailleurs ?
Ah,
vous arrivez à lire quand même, ceux du premier rang là. Donc, ça c'est quoi ?
S.
Dites-le pour ceux du fond qui voient mal.
S.
Après.
T-H-A-D.
Alors, saint, T-H-A-D, ça peut être qui ? Saint Thaddée, tout simplement. Hein. Thaddée est un prénom, hein. Il y a un saint Thaddée, c'est même un des apôtres. Vous avez là un portrait de saint Thaddée. Alors, vous rappelez qu'on s'était posé la semaine dernière la question de savoir comment un tel portrait avait été réalisé. À votre avis, un portrait comme ça, qui est une œuvre d'un artiste que vous connaissez peut-être, non ? Vous avez une idée de l'artiste qui a fait ça ? Et peut-être du pays d'où est originaire cet artiste ? Alors, c'est un hispanolo-italien, si j'ose dire, qui s'appelle Ribera. Voilà. Et donc, c'est un artiste du XVIIe siècle. Hein. Mais un tableau comme ça peut être fait comment ? Par rapport, encore une fois, à la question qui est la nôtre. Hein. Qu'est-ce qu'un portrait ?
Quelqu'un a posé.
Voilà, quelqu'un a posé. C'est-à-dire que c'est la même problématique que ce qu'on a vu la fois dernière, vous vous en souvenez, hein. Je ravive un peu nos souvenirs d'une semaine. Hein. C'est-à-dire que Ribera a fait ce tableau, il a fait poser quelqu'un, Donc, on pourrait dire, bah, c'est un portrait, parce qu'elle a fait poser quelqu'un, et qu'il a reproduit les traits de ce quelqu'un sur son tableau. Sauf que son intention, vous rappelez, on en avait parlé, hein, n'est pas de faire un portrait, mais de se servir de la personne qu'il fait poser comme, j'allais dire, support au portrait, ou plutôt à la représentation de l'apôtre saint Thaddée. D'accord ? Voilà, donc on a là ce très beau tableau, qui est d'ailleurs rentré dans les collections du musée des Beaux-Arts de Rennes, tout récemment. Hein. Il y a même une souscription nationale pour acquérir ce tableau pour le musée de Rennes, qu'il a d'ailleurs acquis dans la foulée par donation un autre tableau, à mon avis beaucoup plus beau, hein, qui a pas besoin de Saint-Mathieu, c'est forcément beaucoup mieux, et qui fait partie de toute une série de tableaux qui représentaient... Alors il y a une petite... Mais c'est pas grave, vous notez quelque part. Voilà, je disais donc que vous avez là un autre tableau qui est rentré aussi dans les collections du musée de Rennes et qui représente un autre apôtre de la même série, toujours par Ribera. En fait, il y avait les 12 apôtres, hein, qui étaient représentés par cette série. Et vous avez là la même problématique, c'est-à-dire quelqu'un qui a posé pour lui, mais il ne s'agit pas non plus d'un portrait. D'accord ? Et ça, qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette œuvre ? Alors, portrait, pas portrait, c'est toujours la question. Pas portrait, non, c'est une scène de genre. Hein. Scène de genre, bon. Eh bien non.
Qui pourrait être un portrait justement d'une danseuse.
Et voilà, c'est un portrait. Simplement, c'est un portrait, comme vous le disiez, d'une danseuse. Hein. C'est donc c'est vraiment un portrait d'une danseuse qui a été fait comme telle. Mais vous avez raison, ça ressemble à une scène de genre. C'est un portrait qui est fait comme une scène de genre, sauf que là, c'est vraiment un portrait. Parce que le but, c'est vraiment d'avoir représenté cette danseuse. Une danseuse de quelle époque, ce tableau-là ? 18e. Vous avez une idée de l'époque, de l'auteur de...
18e.
Hein, 18e. C'est un tableau fait où, à votre avis ?
France.
Hein. Et est-ce que vous avez, et au théâtre sans doute, hein, et est-ce que vous avez une idée peut-être, alors là c'est beaucoup plus dur, hein, mais son nom est assez connu du nom de cette danseuse, qui était très célèbre en France au 18e.
La Camargo ?
Voilà, c'est la Camargo. Hein. La Camargo était une danseuse qui brûlait les planches, hein, dans cette France du 18e siècle, même si elle était d'origine italienne. Voilà, donc c'est par Nicolas Lancret, qui est un émule de... Antoine Watteau, c'est le portrait de la Camargo, mais qui est en effet traité de la même manière qu'une scène de genre, sauf que c'est un portrait. Vous voyez que décidément, des portraits, hein, il y en a des quantités de sortes. Et ça, portrait, c'est en effet un portrait de qui ? Pardon ? Ah, portrait de chien. Alors, je suis pas sûr que le chien soit aussi portraituré que dans le portrait de chien ou les portraits de chien que nous avions vus la semaine dernière. Hein. Le portrait principal, c'est qui ? Voilà, une petite fille. Hein. On ne sait pas qui c'est une petite fille, ça on le sait. Mais je demande, vous parliez de chien. Pourquoi ce chien accompagne la petite fille ? Est-ce qu'il y a une raison ? Oui, il n'y en a pas, à votre avis. Pardon, une bergère. Donc, c'est le portrait d'une petite bergère. Oui, ça vous va, ça ? Quand on est une bergère, on a les moyens de s'offrir... Je crains que non. C'est pas une bergère. Et pourtant, elle est représentée en bergère. Alors, expliquez-moi. C'est un portrait d'une jeune fille représentée en bergère, mais qui n'est pas une bergère, parce qu'une bergère... À quelle époque, ce tableau, à votre avis ? 18e ? Un petit peu plus tôt, c'est 17e. Hein. Au 17e siècle, quand on est une bergère, on n'a pas trop les moyens de s'offrir un portrait. Quoi, hein. Voilà. Alors pourquoi ? Oui, elle a en plus, effectivement, des habits qui ne sont pas trop ceux des bergers. Bon. Alors, oui, c'est ça. Hein. Alors, il y a donc deux questions. Pourquoi cette petite fille est présentée en bergère ? Et d'un. Deux. Question subsidiaire, vous parliez du chien. Pourquoi le chien ? Pour faire bergère, d'accord, mais il y a peut-être d'autres raisons. Alors d'abord, pourquoi elle est représentée en bergère ?
Elle s'est déguisée,
mais pourquoi spécialement en bergère ? Si elle aurait pu se déguiser en, je sais pas quoi, moi, en Pierrot, en...
C'est la mode.
Et pourquoi c'est la mode de se déguiser en berger ou en bergère ?
Ah, mais il y a la période du... la première moitié... Enfin, au milieu du XVIIe siècle...
Alors, c'est l'idée de jouer en bergère. Vous parliez de Marie-Antoinette, là, à l'instant,
non.
Qui en effet, jouera à la bergère, mais plus tard, au XVIIIe.
Non, mais au XVIIe siècle.
Mais quel est l'intérêt de jouer à la bergère? Là, on est au XVIIe siècle. Voilà une petite fille qui est sans doute pas une bergère, mais qui est déguisée en bergère. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les parents de cette petite fille, qui ont certainement commandé ce tableau au XVIIe siècle, pourquoi est-ce qu'ils ont grimé leur petite fille en bergère? Quelle est la raison? Autant de vous faire joli, ou c'est amusant de mettre en bergère?
Autant de l'astrée, je ne trouve plus le nom de littéraire.
L'auteur?
Oui.
Ça commence par un U.
Urfé.
Voilà.
Voilà.
Honoré d'Urfé, ça vous dit quelque chose?
Oui, oui.
Aux uns aux autres, et plus anciennement Virgile. Qu'est-ce que des écrivains comme Virgile dans l'Antiquité, ou Honoré d'Urfé, plus tard, au XVIe siècle, enfin, 16e, 17e, qu'est-ce que ces auteurs disent par rapport à quelque chose comme ce qui est représenté ici? Voilà, l'idée de la nature. Qu'est-ce qu'il dit sur la nature? La nature, c'est quoi pour Virgile, pour Honoré d'Urfé? C'est le paradis sur Terre. La nature, c'est le paradis sur Terre. Virgile ne dit rien d'autre que le fait que la nature, c'est le paradis sur Terre, pour les gens cultivés. Hein. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Si la nature est le paradis sur Terre, qu'est-ce que ça veut dire en ce qui concerne un berger? La nature, c'est le paradis sur Terre. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, par rapport à cette idée-là, que la nature est le paradis sur Terre, concernant le berger? Quel est le rapport du berger à la nature? Le berger vit dans un salon avec des serviteurs. Le berger, il vit dans la nature. Alors, puisque le berger vit dans la nature, et que la nature est le paradis sur Terre, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Que le berger vit dans le paradis sur Terre. Et vivre dans le paradis, c'est finalement quoi? C'est être heureux. Finalement, l'être le plus heureux, on croit que c'est le prince, c'est pas vrai, c'est le berger. Parce que le berger vit dans le paradis. La nature, c'est le paradis, le berger vit dans le paradis, l'homme riche et heureux, c'est pas le prince, c'est le berger. Donc si au XVIIe, au XVIIIe siècle, on représente des gens en berger, mais c'est vrai dès le Moyen-Âge, c'est vrai dès l'Antiquité, c'est parce que le berger incarne un bonheur certes simple, mais réel. Et si des gens représentaient leur petite fille en bergère, c'est pour ça. Pour la représenter dans une sorte d'ambiance qui est celle, certes, d'une sorte d'humilité, hein, mais d'humilité vraiment heureuse. Et le chien, est-ce qu'il a une autre raison d'être?
D'amitié, de fidélité.
Oui, alors le chien, effectivement, il évoque ça. Il évoque l'idée de l'amitié, de la fidélité. Hein. Le chien, c'est l'emblème de l'amitié ou de la fidélité. Il peut avoir d'ailleurs un autre sens, comme d'autres animaux. Je vous montre ici un autre portrait d'enfant, qui est également un portrait nordique datant du XVIIe siècle, hein, qui représente un enfant, cette fois c'est un petit garçon, et il a sur le poing, vous voyez, un petit oiseau, une perruche. À votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Parce que je vous montre ces deux portraits-là, mais je pourrais vous montrer d'autres dizaines de portraits d'enfants, surtout réalisé en Flandre et en Hollande, hein, au XVIIe siècle notamment, représentant donc des enfants accompagnés d'un chien ou d'une perruche. Quelle est l'idée? Le chien, on l'a dit, fidélité, etc. Mais il y a aussi une autre idée qui est aussi celle de la perruche, un peu plus rude d'ailleurs. Qu'est-ce que ça peut être? Quel est ce qui rassemble une perruche et un chien? Quel est le point commun pour vous et moi, hein? Pardon? Ce sont des animaux de compagnie, très bien. Quand vous accueillez chez vous une perruche ou un chien, vous amenez la perruche, mais c'est tout, et le chien aussi?
Non, il y a du dressage.
Pardon?
Le dressage.
Eh bien voilà, il y a du dressage. Un chien, ça se dresse. Un chien, ça s'éduque, enfin, hein. Et bien un enfant aussi. De la même manière, un oiseau, l'oiseau, vous le mettez en cage, hein, pour le cadrer en quelque sorte, et bien l'enfant aussi. En fait, si on représente les enfants avec des chiens ou des oiseaux, c'est pas simplement pour un élément un petit peu mignon qui fait « Oh, comme c'est joli d'avoir un petit oiseau avec un petit enfant », c'est pas ça. C'est pour évoquer l'idée, encore une fois, de l'éducation, et que tout comme vous éduquez ou vous engagez un oiseau ou un chien, et bien vous faites la même chose avec un enfant. Il faut le cadrer, si vous voulez. C'est ça l'idée. Oui, oui, hein, ça, c'est un langage qu'on a du mal à entendre aujourd'hui, effectivement. Hein. Alors, quelquefois aussi, de manière plus habituelle, hein, plus convenue, on présente souvent les enfants aussi avec un livre. Et ça, vous comprenez bien, hein, c'est l'idée de l'éducation qui peut-être est plus claire. Alors ça, portrait, pas portrait,
ah oui,
pas.
Portrait,
et est-ce que vous... Donc portrait, ok.
Et l'accordaire.
Et l'accordaire. L'accordaire, c'est qui?
Un dominicain du 19e siècle, oui, qui a remis en route, je crois, les dominicains.
Ouais. Et est-ce qu'on peut...
Et la prédication.
Ouais. Et est-ce qu'on peut un peu, comment dire, essayer de préciser le type de personnage qui était l'accordaire? Que peut-être, d'ailleurs, ce portrait peut suggérer. Oui, c'est un révérend père, en tout cas, oui.
Un aura.
Oui, une aura particulière, sans doute, oui.
Mais n'est-il pas à l'origine des premières prédications de carême de Notre-Dame?
Alors ça, je ne saurais pas vous dire. Peut-être.
Sans parler de Bossuet.
Oui.
Mais une reprise.
Et qu'est-ce que ce portrait peut vous suggérer du caractère du personnage? Parce que c'est ça qui nous intéresse, là. Hein. On a là le portrait, effectivement, du père Lacordaire. Bien. Un personnage qui a joué un rôle dans l'évolution de l'Église en France au XIXe siècle. OK. Comment est-ce que l'auteur de ce portrait, que peut-être vous connaissez, comment l'auteur de ce portrait, on a déjà vu une œuvre de lui la dernière fois, comment l'auteur de ce portrait s'y prend pour rendre dans ce portrait? Mais si vous ne connaissez pas le personnage, hein, normalement, si le peintre ne s'est pas trompé, ne s'est pas fourvoyé, ce portrait, par image qu'il vous montre, simplement, sans que vous ne connaissez rien à Lacordaire, hein, ce portrait doit vous dire des choses, doit vous dire quel type de personnage vous êtes devant vous.
Il est mis en lumière,
effectivement, il y a une sorte de révélation, hein, absolument, il n'est pas dans l'ombre, là. Il est mis en lumière, absolument.
Il inspire une certaine ascèse aussi.
Une certaine ascèse, absolument, ouais. Oui, une sorte d'austérité, oui. Oui, une sorte de profondeur spirituelle, oui.
Derrière, c'est des religieux ou ce sont des...
Oui. Qu'est-ce que vous voyez derrière, d'ailleurs? C'est un cloître, hein, vous voyez un cloître, hein. Et vous voyez des religieux dans un cloître, vous voyez deux moines, là. Hein, absolument. Ce sont des religieux. Ce sont des messieurs, hein.
Oui.
Non. Non, un monsieur avec la tonsure, même. Hein. Ouais. Donc, effectivement, on a là un portrait qui nous montre un personnage. Il est représenté comment, d'ailleurs?
Il est élu.
Pardon?
Il est élu par Dieu.
D'une certaine manière, oui. Il est une espèce de lumière qui, dans la grisaillerie de la pièce, hein, inonde le personnage, évoque cette idée-là. Mais il est représenté, quoi, de profil, avec la tête comme ça, qui revient? Non, il est représenté de face. Hein. Donc, qu'est-ce que ça suggère, ça? Il est représenté de face, il n'est pas représenté profil comme ça, il est représenté de face.
Hein. À côté officiel.
Ça veut dire quoi, ça? Voilà, il est décidé, il y a une sorte de rigueur, hein. En clair, si j'ose dire entre guillemets, on voit que c'est pas un rigolo, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui a une sorte de rigueur, quelqu'un qui a même, en effet, une sorte de message. Il est quelque part élu. Hein. On sent bien qu'on est dans une atmosphère religieuse. On le voit avec ce qui se passe derrière et les personnages qui sont à l'arrière. C'est un personnage dont la rigueur est montrée par la manière dont il est placé. Hein. Il est debout de face, il vous regarde avec ses yeux noirs. Hein. C'est pas un type qui est là comme ça. Rappelez-vous Rameau de la semaine dernière, qui était cool assis sur son siège. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. Là, on est vraiment dans autre chose. Donc, vous voyez comment le portrait, même si vous connaissez pas le personnage, vous allez rien qu'en le regardant, mais il faut regarder. Rien qu'en les regardant, vous allez comprendre ce dont il s'agit. Hein. Est-ce que vous vous rappelez de qui peut être l'auteur de ce tableau? On a vu une œuvre qui montrait une sorte de rigueur, de forte neutralité, comme ça, la semaine dernière. C'est qui? Les deux sœurs. C'était de qui? Absolument. Un des plus grands peintres du 19e siècle en France. On peut connaître par cœur. Chassériau. Il faut connaître Chassériau. Hein. Voilà un chef-d'œuvre de la peinture française du 19e, Chassériau. Hein, et le portrait du père Dominique Lacordaire, une œuvre effectivement très importante. Et ça, portrait, pas portrait. Pardon ? Pas portrait. Non, vous avez raison, c'est pas portrait. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est si c'est pas un portrait ? Alors, est-ce que c'est là, partie là ? Parce que là, c'est un tableau complet, hein. Là, je vous ai pas, j'ai pas tous les tableaux que je vous montre sont complets, sauf quand je vous le dis, hein. Donc là, c'est un portrait, c'est un tableau, pardon, complet. Mais vous dites que c'est une partie d'un tableau. C'est intéressant comme idée. C'est pas une partie d'un tableau, mais j'entends pas trop, mais je crois que vous avez trouvé, oui. Voilà, c'est ça. Hein. C'est une étude pour un grand tableau. D'accord. Hein. Comment est-ce que le peintre a fait cette étude-là ?
Il a fait poser quelqu'un.
Voilà, il a fait poser quelqu'un. C'est comme notre saint Thaddée ou notre saint Matthieu de tout à l'heure. C'est la même chose. Hein. L'artiste qui a fait ça a fait poser quelqu'un. D'accord ? Bien. Mais quelqu'un... Donc, ben, il a fait poser quelqu'un, donc c'est un portrait. Non. Voilà. C'est pas un portrait parce qu'il a fait poser quelqu'un, mais pour représenter quelqu'un. Par exemple, la personne qu'il a fait poser pour réaliser cette figure, cette représentation, ça pourrait être qui ou quoi ? Oui, ça pourrait être un apôtre, par exemple. Hein. On peut imaginer que le peintre qui a fait poser ce personnage souhaitait avoir un modèle pour représenter un apôtre, hein, d'où le fait qu'il a les mains jointes, le regard en l'air, etc. Une idée de l'auteur. Alors, avant l'auteur, on va commencer par la période, à quelle époque a été fait ce tableau, et dans quel secteur, on est où là ? Hollande ou Flandre, ouais, c'est ça. Quelle époque ? Du 7e, absolument. Une idée peut-être d'un peintre parmi les plus grands du temps, hein. On doit tous connaître ça par cœur. Hein. Attention. Hein. Alors, parmi les plus grands peintres européens, je n'ai même pas de peintre au nom des Flamands, hein, plus grand peintre européen du 17e siècle. On le connaît. Ah, ça pourrait être Rembrandt, mais c'est pas. Ça pourrait être. Ah, c'est pas mal. Rubens, son approche, c'est proche de Rubens, c'est pas loin. Ah, pas Vermeer.
Ah, Jordaens.
Jacob Jordaens. Trois grands peintres, notamment dans cette Flandre du XVIIe siècle. Hein. Rubens, Jordaens, Van Dyck. Hein. On peut tous les connaître par cœur. Hein. Voilà Jordaens. Hein. Voilà une œuvre de Jacob Jordaens. Alors, c'est amusant parce que le tableau que vous avez là représente un type qui s'appelle Abraham Graffeus. Il se trouve que Graffeus était le concierge de l'atelier dans lequel travaillait Rubens avec ses élèves Jacob Jordaens, oui, et Van Dyck, Anthony Van Dyck. Hein. Van Dyck et Jordaens étaient les émules, si vous voulez, de Rubens. Hein. Ils travaillaient dans un seul et même atelier, au moins pendant un temps, et le type qui ouvrait et fermait la porte, hein, c'était Abraham Graffeus, et souvent Van Dyck, comme Jordaens, comme Rubens, le prenaient comme modèle pour leur tableau. Quand ils avaient à peindre dans un coin d'un tableau un Saint Jean ou un Saint Thomas ou je sais pas quoi, ils demandaient à Graffeus de prendre la pose, ils le portraituraient, entre guillemets, comme ce que vous avez là, et ensuite ils l'intégraient à une composition définitive. Donc vous avez là un portrait qui n'en est pas un, d'une certaine manière, hein, même si on sait qui ça représente. C'est décidément ambigu le portrait, hein. On en a parlé la dernière fois. Voilà un autre exemple. Alors là, c'est pas Graffeus, mais encore un autre tableau de Jordaens qui montre la même chose. Jordaens a fait poser un vieillard, si vous voulez, à qui il a fait prendre une pose et ensuite il l'a intégré dans un tableau. OK ? Donc c'est un portrait qui n'en est pas un, d'une certaine manière. Alors on termine par les quelques derniers. Là, portrait, pas portrait ? Portrait. Oui, vous avez raison, c'est un portrait. Mais un portrait, alors, là aussi, je vais vous demander peut-être le pays où ce portrait a été fait, peut-être l'époque, peut-être même le peintre, super connu, ultra connu. Quelle époque ? Alors, on pourrait penser que c'est flamand 17e, en fait c'est 18e et c'est français. Mais d'un artiste français du 18e qui a beaucoup regardé du côté des Nordiques, des Flamands et des Landais, un artiste hyper célèbre. Vous connaissez tous. Hein. Je vous le dirai, mais... ça commence par un C. Oui, Charde. Hein. C'est un mot Charde. Tout le monde connaît Charde. Hein. Charde. Ben voilà, un chef-d'œuvre de Charde. Pardon. Ah, alors, oh, ça dépend. Il a aussi des brins, etc. Alors, ce qu'il faut dire, c'est quelquefois, hein, la vidéoprojection ne rend pas justice aux couleurs. Hein. Donc, il ne faut pas trop toujours se baser sur les couleurs que vous voyez là, parce que quelquefois, elles sont tout à fait, les nuances ne sont pas tout à fait bonnes. Hein. Et là, c'est, effectivement, vous avez raison, c'est un peu brunâtre. Hein. Correct. Alors, on a là un portrait fait par Chardin. Alors, l'amusant, c'est que ce portrait, je vous donne ici la légende, hein, représente un ami de Chardin, qui est le peintre Joseph Aved. Hein. Et l'amusant, c'est que Chardin a représenté son ami Aved à la manière d'un alchimiste. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on a là quelque chose. Si on ne savait pas que c'était Aved, etc., on pourrait dire, tiens, c'est une scène de genre, comme les Hollandais et les Flamands l'ont fait beaucoup, c'est des alchimistes dans leur laboratoire, etc. Ben non, Chardin a fait poser son ami un peu comme c'était un alchimiste ou un chimiste dans son laboratoire. Vous voyez ? Décidément, le portrait, c'est compliqué. Voilà quelque chose qui pourrait être un portrait simple. Ben non, Chardin, il a compliqué le truc en faisant poser son personnage à la manière d'une sorte de scientifique, si vous voulez, dans son laboratoire. Décidément, le portrait, c'est moins simple qu'il n'y paraît.
La voisine.
Le portrait de la voisine par...
Ça commence par...
Par un D. France 18e et 19e. Oh, vous ne connaissez que lui. Ben oui. David. Hein. Ça, c'est le portrait de la voisine par David. La voisine est son épouse. Hein. Qu'est-ce que vous inspire ce portrait-là par rapport à notre question ? Est-ce un portrait ou pas ? Qu'est-ce qu'un portrait ? Oui, voilà, c'est un portrait double. Il y a deux personnages, la voisine et sa femme. Et on va dire que c'est un portrait classique, mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ?
Mais en situation de travail, voilà. de création, enfin de l'invention.
Absolument. Hein.
De chimie.
C'est ça. On voit en fait le personnage, effectivement, dans son travail. Tout à l'heure, on voyait la Camargo qui dansait. Hein, elle était en plein boulot. Et bien là, on a la voisine qui travaille aussi, chacun avec ses instruments. Hein. Et là, vous voyez également le rôle du décor, on en a parlé la dernière fois, et le rôle des attributs. Hein. On a vu ça la dernière fois déjà, hein, que les attributs et le décor, c'était très important. Il faut regarder les tableaux. Hein. Il ne faut pas simplement regarder la tête des gens. Il faut regarder ce qui se passe autour. Hein. C'est capital pour comprendre ce qu'est un portrait. Et enfin, celui-ci. Ah, voilà, l'autoportrait d'Albrecht Dürer. Très bien. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce portrait ultra célèbre, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, absolument. Oui, c'est vrai. Oui, là. Et on parlera de cette propension-là, hein, plus tard. Qu'est-ce qu'il tient ?
Un chardon.
Un chardon. Pourquoi est-ce qu'il tient un chardon ? Voilà une drôle d'idée. Pourquoi est-ce que Dürer se représente tenant un chardon ? Regardez-le. C'est un symbole. Mais lequel ? Qu'est-ce que le symbole peut représenter ? Ceux qui savent ne le disent pas. Parce qu'il y en a qui savent ici. Et par cœur, même. Vous avez bien retenu les règles. Hein ? Voilà. Parce que j'en ai deux là qui savent très très bien ce que ça veut dire qu'un chardon. Mais elles se taisent, c'est bien. Elles savent que nos règles font quand on sait bien, on ne doit pas dire. Le chardon, qu'est-ce que ça veut dire ?
Pardon ? Ça a quelque chose à voir avec la réforme ?
Non. Non.
Qu'on est mortel ?
Alors, pas qu'on est mortel, ça pique un chardon. Pardon ? Un sujet dérangeant, vous avez dit quoi ? Qui s'y frotte, s'y pique. Qu'est-ce que vous allez dire, ça ? D'abord, qui s'y frotte, s'y pique, c'est la devise de qui ? De quoi ? Alors, d'une part d'une région anglaise, l'Écosse. L'Écosse a effectivement une devise qui est qui s'y frotte, s'y pique, mais il y a une ville en France dont la devise est qui s'y frotte, s'y pique. Laquelle ? Et qui a comme emblème le chardon ? Pardon ? Non, mais vous n'êtes pas loin. Non. Ça commence par non. C'est à l'est.
Nancy.
Voilà, Nancy. Vous aviez le début. Hein. Nancy. La ville de Nancy, pas très loin d'ici, en Lorraine, a une devise qui est qui s'y frotte, s'y pique. Et son emblème, c'est le chardon. Hein. Ça veut dire quoi, qui s'y frotte, s'y pique ? Ça veut dire que le chardon, c'est quoi ? Ça symbolise quoi ?
La défense.
Oui, la défense. Et peut-être même avant la défense. Moi, quand je vois un chardon, Je trouve ça assez beau d'ailleurs un chardon. Hein. Le problème c'est que ça pique. Donc ça me suggère quoi? Je trouve ça beau, je me dis, oh bah, il est chouette le chardon. Moi j'ai pas très envie d'aller plus loin. Ça veut dire quoi? La prudence, oui. Mais en même temps, je trouve ça assez... Ah, répulsion, non, parce que je trouve ça assez beau. Hein. Je trouve vraiment que c'est beau. Puis quelquefois, les chardons, il y en a très haut. Regardez dans la région, on a des cardères très hauts. Ça fait 2 mètres de haut. Hein. Ah, quand je vois ces chardons-là, je trouve ça très beau. Je trouve que... Presque envie de faire la révérence. Hein. Sauf que j'ai pas envie d'approcher, parce que ça pique. Donc ça suggère quoi, ça?
Le respect.
Le respect. Le chardon, c'est la fleur du respect. Mais c'est autre chose. Pensez qu'on a une... on est une époque très religieuse. Le chardon, ça évoque quoi?
Il y a quelque chose en religion, mais je ne m'en rappelle pas quoi.
C'est piquant. Ça évoque quoi? La couronne du Christ. Le chardon, ça évoque la couronne du Christ. Hein? Qu'est-ce qui est pour l'œil religieux de la fin du Moyen-Âge, à l'époque de Dürer? Qu'est-ce que c'est que le chardon? Comme toutes les fleurs piquantes, hein, c'est une fleur qui évoque l'idée de la couronne du Christ. Et bien, une dernière chose. Quand vous passez dans un buisson de chardon, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Ça s'accroche. Ça s'attache. Et puisqu'un chardon, ça s'accroche et ça s'attache, ça veut dire quoi encore? C'est la couronne du Christ, le chardon? C'est la fleur du respect, ça veut dire quoi encore? La fidélité, exactement. Le chardon, c'est la fleur de la fidélité. Eh bien, si Dürer ici porte un chardon, c'est au moins pour deux de ses raisons. Sûrement la couronne du Christ, mais aussi la fidélité. Parce que ce portrait a sans doute été fait au moment des fiançailles de Dürer. Donc le chardon, il est là pour suggérer cette idée de la fidélité. Voilà. Bien. Alors, on est arrivé au bout des quelques œuvres qu'on n'avait pas vues la dernière fois. Je me permets en 2 minutes de faire juste un petit bilan de ce que nous avons vu la dernière fois. Vous savez que la dernière fois, on s'est donc posé la question de qu'est-ce que c'est qu'un portrait. Le tout était de faire une sorte d'analyse de ce qu'était le genre du portrait que nous avons regardé la dernière fois. Je vous rappelle qu'on a d'abord évoqué la question du médium. En gros, quel support artistique peut être celui du portrait? Et on a conclu, je vous rappelle, hein, qu'un portrait pouvait être peint, il pouvait être dessiné, il pouvait être sculpté. On a même dit qu'il pouvait être photographié, etc. Bon, dans ces ateliers, on travaille depuis l'Antiquité jusqu'au 19e. On a fait des photographies au 19e. Ce n'est pas Nicéphore, Niepski, il y a le contraire. Hein. Bon. Mais voilà, on voit bien que les médiums, les médias, du portrait sont divers. Hein. Le portrait, ce n'est pas que de la peinture ou de la sculpture. Hein. Il y a différents médias. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, toujours pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un portrait, hein, au niveau de la composition, d'un portrait, on a vu que les cadrages pouvaient être différents. Ça peut être la tête, ça peut être le buste, ça peut être en pied. Hein. Un portrait, ce n'est pas simplement une tête, hein, ça peut être un portrait en pied. Hein. Décidément, on voit que les médiums, les médias sont divers, mais que le cadrage le sont aussi. D'accord? Toujours en termes... Je ne fais que résumer ce qu'on a vu la dernière fois. Hein. On est d'accord. Hein. Au niveau de la composition, on a également vu que dans un portrait, le nombre jouait. C'est-à-dire qu'un portrait, c'est une personne ou plein de monde. On est d'accord. Hein. Vous vous rappelez, on a vu la dernière fois. On a vu des portraits, encore aujourd'hui, avec une seule personne, ou alors des portraits avec plein de monde. D'accord, hein. Donc, au niveau de la composition, le nombre joue. Il peut y avoir beaucoup de monde ou pas. D'accord? Toujours en ce qui concerne la composition, vous vous rappelez la dernière fois, on avait vu que le décor, c'était très important, on l'a revu aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Un portrait, c'est pas que la tête de la personne qui est représentée, c'est le décor qui est autour. Or, ce décor, c'est comme notre lacordaire avec son cloître derrière lui. C'est la nature derrière le portrait de Gros à Mademoiselle Boyer, vous vous rappelez de ça, hein, hein, qui finalement évoquait de manière très romantique, hein, j'allais dire le sentiment de la personne représentée, mais quelquefois c'est simplement une couleur. Vous vous rappelez du portrait de... C'est de qui à gauche là? David, hein, chef-d'œuvre de David, Madame Trudel. Hein, voilà. Donc on a là des tableaux qui montrent à quel point, au niveau de la composition, hein, à quel point le décor, le fond est capital, que ce soit une couleur, un paysage ou une architecture. D'accord? Toujours pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un portrait, on a vu qu'au niveau de la composition, et on l'a vu plein de fois la fois dernière, l'attribut ou les attributs, c'était très très important. Alors on a vu des tableaux où un personnage tient un attribut, rappelez-vous ce jeune homme avec sa statue là, hein. Mais on l'a vu aussi quelquefois, c'était tout un fatras, comme le tableau de Bailly que vous voyez à droite, hein, avec ce personnage avec la vanité, vous vous rappelez, hein. Donc l'attribut ou les attributs, c'est très important aussi. Hein, comme quoi le portrait, c'est pas simplement la tête de quelqu'un, c'est ce qui se passe derrière, à côté, avec, entre ses mains, etc. Un portrait, c'est tout ça. Si on n'a pas tout ça en tête, on comprend pas ce que c'est qu'un portrait. D'accord ? Maintenant, si on essaie de voir quels sont les types de portraits, hein, on a vu comment un portrait a été composé, comment il était cadré, sur quel médium il pouvait être fait. Maintenant, essayons de voir quels sont les types de portraits. Ben, on avait dégagé plusieurs types. D'abord, ce qu'on avait un peu qualifié de « neutralité objective », entre guillemets, parce que tout et rien n'est jamais objectif, on est bien d'accord. Hein. Mais vous rappelez qu'on avait quand même vu des portraits dont on avait dit « c'est objectif ». Vous rappelez les deux sœurs hein, qui sont présentées de face, comme ça, elles ne rient pas, etc. C'est vraiment... c'est d'ailleurs tellement objectif et que quelque part, ça devient un peu outré. Hein. Vous vous rappelez, on avait parlé autour de ça. Hein. Mais il y a une sorte d'objectif, il n'y a pas d'affect, si j'ose dire. C'est la même chose pour La folle du milieu, vous vous rappelez, hein, de Géricault. Oui, oui. Vous vous rappelez cette série extraordinaire des tableaux de Géricault. Hein. Ben, Géricault a planté son atelier à Salpêtrière, il a fait poser cette dame, si tant est qu'elle ait pu poser, et puis ben, il a fait le tableau, puis il a présenté la dame telle qu'elle était. Quoi. Donc on a là une sorte de neutralité, et on avait remarqué dans le tableau du maître de Moulin à gauche, hein, qui représente une donatrice, il y avait intérêt à ce que ce soit là aussi neutre, proche de la réalité, parce que quand on fait faire un tableau et qu'on se fait peindre dessus, c'est qu'on veut gagner son paradis. Il ne s'agit pas que Saint-Pierre ne vous reconnaisse pas, si vous voulez. Hein. Donc vous devez être représenté dans le tableau de manière neutre, objective. D'accord hein. Donc la neutralité objective, elle est très très importante. C'est toute une typologie de ces portraits. La première typologie qu'on avait dégagée. Il y a un autre type de portrait dont on avait vu qu'ils étaient habités par une sorte de sensibilité. Dire l'artiste quitte cette sorte de neutralité objective hein, pour aller vers une sensibilité qui va animer le portrait. Alors il va l'animer soit de manière assez douce, hein, rappelez Madame Nonotte en train de lire à gauche, ou bien de manière plus animée justement, Madame Houdon qui rigole hein, pendant que son mari la sculpte. Hein. Et puis vous rappelez de Joliotte hein, qui lui est représentée, ça aussi c'est sensible, dans son métier c'est d'être chanteur, et là il est en train de chanter, si j'ose dire, ce rôle merveilleux, vous avez touché à ce disque la semaine dernière, hein, de Platé de Jean-Philippe Rameau, merveille de la musique du XVIIIe siècle, hein, et il est en train là de représenter ça. Donc on octroie à la figure, au portrait, hein, une sensibilité spécifique, qui peut être la personne, j'allais dire, surprise dans sa vie quotidienne, ou dans son métier. Hein, voilà qui rend, donne une sensibilité spécifique au portrait. Et puis il y a un troisième type que l'on avait vu, c'est celui du travestissement. Hein. Alors là, on s'amuse, si j'ose dire, et on fait jouer à un aristocrate italien du XVIe siècle le rôle de Neptune, un peu bedonnant, ou bien une fille de Louis XV le rôle d'une vestale. Hein. On travestit complètement, on déguise. Et puis enfin, vous aviez remarqué qu'au-delà de ces types que l'on a vus, on avait remarqué qu'il y avait des portraits qui n'étaient pas humains. On retombe sur nos fameux et chers chiens. Hein. Rappelez, Basson, Oudry, hein, je vous avais montré ça. Alors, c'est des portraits parce que ça représente des chiens réels, mais ce n'est pas vraiment des portraits parce que les portraits, normalement, c'est des personnes. Hein. Donc, ce sont des portraits, entre guillemets, mais non humains. Et puis, vous rappelez enfin qu'on avait vu toute une série de figures qui pouvaient à première vue être prises pour des portraits, mais qui ne l'étaient pas, hein, qui sont ce qu'on avait plus ou moins appelé des figures types. La dentelière, Vermeer a sûrement fait poser quelqu'un, mais son but n'est pas de représenter cette personne, mais de représenter la figure type d'une dentelière. Idem pour Tiepolo, qui représente ce prophète. Son but n'est pas de représenter Monsieur Bidule, mais le genre, le type d'un prophète. Idem pour la figure adorable. Vous rappelez les textes d'expression hein. Vous rappelez quelle expression était figurée dans ce portrait-là ? Oh, elle a bien son air. Elle vous regarde un peu haut en baissant les yeux. Le dédain. Hein. Donc les textes d'expression, on a beau faire poser quelqu'un, c'est une figure type et pas du tout un portrait. Même si c'est Madame Bidule qui a posé pour Bouguereau, l'auteur de cette œuvre. Enfin, dernière chose, on avait évoqué également la figure historique, hein, et vous vous rappelez des Jeanne d'Arc, Vierge Marie, aujourd'hui autre Graffeus qui a été figuré pour faire un apôtre, hein, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, en fait, des figures historiques. Alors, on a fait poser de vrais gens pour faire ces tableaux, hein, certainement. Sauf que les peintres qui ont fait ces tableaux ont voulu représenter des portraits rétrospectifs. Hein. Par exemple, Millet, vous vous rappelez du peintre britannique Millet, n'a jamais connu Jeanne d'Arc. Ben, il a présenté Jeanne d'Arc quand même. Hein. Donc ce n'est pas un portrait, c'est une figure historique. On appelait ça, la dernière fois, entre guillemets, portrait rétrospectif. Vous vous rappelez ? Est-ce que tout ça est clair pour vous? C'est capital parce que cette espèce de grille-là qui fait qu'on comprend ce que c'est qu'un portrait. Et attention, parce qu'il y aura peut-être des pièges dans les semaines qui viennent. Je crois, je le crains. C'est important donc d'avoir tout ça en tête pour bien comprendre ce que c'est qu'un portrait. Maintenant, j'aimerais qu'on se consacre pour cette séance à la question suivante. À quoi sert un portrait? En gros, qu'est-ce que c'est que la fonction d'un portrait? C'est la question que je voudrais qu'on évoque aujourd'hui. On peut dégager, me semble-t-il, cette fonction majeure en ce qui concerne un portrait. Je voudrais déjà qu'on regarde un certain nombre d'œuvres qui sont des portraits, et qu'on essaie de dégager, justement, à travers cette question « à quoi ça sert un portrait ?», qu'on essaie de dégager la fonction des tableaux que nous allons voir, des tableaux ou des sculptures, enfin bref, des œuvres que nous allons voir. Voilà un portrait de groupe. Quelle est la fonction du tableau que vous voyez là?
Portrait de famille.
Portrait de famille. C'est un portrait de famille.
La femme montre l'homme.
Voilà, effectivement, il y a madame, il y a deux enfants. Alors, pourquoi monsieur est... Effectivement, madame montre monsieur et monsieur est représenté dans un cadre.
Et monsieur est décédé.
C'est un tableau dans un tableau.
Et monsieur est décédé.
Voilà. C'est parce que le monsieur est décédé. Alors, puisqu'elle est décédée, mais qu'on fait un portrait de famille, on l'intègre, mais pas en chair... non, s'il est décédé, on l'intègre sous forme de portrait dans le tableau. D'accord? Tout à fait. Ça. Alors, c'est une, en effet un portrait qui date de l'époque napoléonienne. On est au tout début du 19e siècle, tout à fait. Fonction d'un portrait comme celui-là.
Officiel.
Oui, officiel. Vous mettez ça dans quelques, je sais pas, palais de justice, mairie, etc.
Non,
je pense pas non plus. Oui, c'est plutôt intime. C'est plutôt, autrement dit, puisque c'est en effet un portrait plutôt intime, plutôt privé. Autrement dit, ce genre de portrait, ça sert à quoi?
À
garder l'image, oui. Pardon? Voilà, c'est ça. Voilà. On demande à un peintre de faire votre portrait. On pourrait qualifier ces portraits de quoi, justement, celui-ci comme celui d'avant? D'ailleurs, vous l'avez dit déjà avant. Un portrait de famille. Ah, ce sont des portraits de famille. Voilà. Pas un portrait de famille. Et ça. Voilà, aussi. Qu'est-ce qui, d'ailleurs, vous montre dans un portrait comme ça la dimension, justement, portrait familial, portrait intime, vous le disiez tout à l'heure? Qu'est-ce qui fait vraiment qu'un portrait comme ça, sans ambiguïté, c'est vraiment un portrait intime? La pose. Voilà, la pose naturelle. Et notamment, qu'est-ce que vous remarquez dans ces... Oui, il y a un chien. Il y a un petit chien, là. Oui, le pouce dans la bouche, elle est représentée comme ça, voilà. Donc c'est vraiment une attitude extrêmement familière, très intime. On n'est là pas du tout devant un portrait fait pour être mis dans quelque lieu officiel, mais devant un portrait de famille qui montre, j'allais dire, la figure familière de tante machin, et qu'on veut avoir chez soi, et on fait faire ce portrait. C'est ça l'idée. Donc ce sont des portraits de famille, des portraits intimes. Et ça, fonction, à quoi sert un portrait? Ce portrait sert à quoi? C'est notre première catégorie, je vous le rappelle. Pardon? Ben oui. Tout simplement, on va effectivement pas aller chercher midi à 14h. Là aussi, c'est un portrait absolument familial. Simplement, plutôt que de montrer une personne, ça en montre plusieurs. Vous avez les générations. L'idée, c'est de montrer le grand-père, le fils, le petit-fils. Vous allez à finalement une sorte de... Enfin, les âges de la vie sont présentés à l'intérieur d'un portrait qui est là aussi un portrait de famille. Ce genre de portrait, qui allait rentrer au Louvre récemment et qui était dans la même famille depuis le XVIIIe siècle, a pour but, j'allais dire éternellement, de colporter l'image de la famille. On est là devant toute une série de portraits qui sont tous un peu différents, hein, mais deux portraits de famille qui représentent des personnages ou un seul, qui représente une famille où un personnage est décédé, donc représenté dans un tableau, ou pas. Vous voyez qu'il y a des tas de manières de représenter cette intimité du portrait. Ça.
Pareil.
Rien à dire par rapport au tableau précédent. Ça fait un peu actrice. Oui, si on veut.
C'est dans un format ovale.
Oui. Et par rapport aux œuvres précédentes, vous ne voyez pas de lien, peut-être de... Non.
Il y a beaucoup de poètes. Hein.
Oui, il y a, elle est effectivement sur un lit de repos et il y a quelques coussins. Hein. Mais c'est plus confortable.
C'est moins naturel.
Moins naturel. Oui, je trouve. Mais on y reviendra peut-être. Et ça. Absolument. Chef-d'œuvre de Thomas Gainsborough. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ça? Voilà.
Avec leurs attributs.
C'est un chasseur.
Avec leurs attributs.
Voilà. Alors, on a en effet un paysage, enfin, un portrait d'un couple dans un paysage avec un attribut. Là aussi, à quoi sert le portrait? C'est la question du jour. Un portrait comme ça? Alors, pardon? Oui. Bon, est-ce qu'ils sont dans des atours absolument exceptionnels?
Non.
Pas vraiment. Hein. On est là dans une sorte de décontraction qui nous rappelle quoi, par exemple, que l'on a vu tout à l'heure? Cette décontraction très, très naturelle. Vous rappelez la femme avec son doigt dans la bouche tout à l'heure? Ben, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est un tableau anglais aussi, cette femme avec le doigt dans la bouche. Hein. C'est-à-dire qu'on est là devant des portraits qui montrent une sorte de décontraction. Ça, c'est vraiment pas fait, au départ, hein, pour être mis dans un lieu officiel, hein, etc. C'est décidément des portraits de famille. Hein. On est toujours dans cette catégorie, mais avec des tableaux différents les uns des autres, hein, avec des portraits qui sont effectivement... des portraits de famille. Et ça, ça ne vous inspire pas par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Mais c'est pas bien, ça.
C'est moins naturel.
Oui, c'est effectivement un peu moins naturel. Elle est là, plus...
Oui, mais c'est un officiel de famille.
Pardon ?
Un officiel de famille.
C'est ça, on pourrait dire que c'est un portrait officiel de famille. Oui, c'est moins naturel. Ça ne vous rappelle rien par rapport aux autres ? Pardon ?
La dame au coussin.
Oui, eh bien.
Oui,
c'est justement.
Mais c'est du même, mais c'est dingue entre toutes les deux.
Ça pour ressembler, elle ressemble. Et pourquoi ? Eh ben voilà. Et c'est pas tout. Ça n'est pas tout.
C'est le même auteur.
C'est le même auteur. C'est-à-dire Ingres.
Oui.
Donc voilà une œuvre de Ingres. Là, vous avez la fille, nous avons vu la mère. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, enfin, un instant, ça, c'est la fille de la mère qui était sur son sofa tout à l'heure avec tous ses coussins. Hein. Vous aviez même dit que ça se ressemblait. Donc voilà la fille de la mère, mais ça n'est pas tout. Si vous avez bien regardé, mais il faut bien regarder. Ah, je sais bien que le soir, c'est au moins le quart, c'est plus dur, mais...
Il y en a une à l'extérieur, tout de même.
Oui.
Et l'autre en intérieur.
Oui, oui, oui. Il y a effectivement un personnage à l'intérieur et à l'extérieur. On a vu que les portraits étaient de tas de types différents. Hein. Je dis 7 heures moins le quart, mais c'est 6 heures moins le quart.
Oui.
La chose avance. N'ayez crainte. Hein. Oui. Rappelez-vous des portraits qu'on a vus, là, depuis quelques instants.
Oui.
Eh, oui. Bon. Mais je vous la resservirai. Voilà. Et ça,
en famille.
Voilà, encore un portrait de famille. Hein. Bien. Autrement dit, on pourrait dire que tous les portraits qu'on venait de voir, hein, la question étant encore une fois, à quoi sert un portrait? Finalement, un portrait, ça sert à répondre à des attentes privées. Hein. Le but d'un portrait, pour vous, pour moi, c'est peut-être d'abord d'avoir le gens de sa famille qui sont là, ou des proches, hein, et qu'on veut portraiturer. Alors, on les fait portraiturer de tas de manières. Hein. Par exemple, là, on fait portrait du rêve toute la famille avec les gosses, avec les enfants. Hein. C'est le père, la mère et les enfants. Là, on va avoir les générations qui apparaissent. Hein. Vous vous rappelez le portrait de Pajou que je vous ai montré il y a un instant hein. Il y a également la possibilité, toujours dans ces portraits privés, mais ça, vous l'aviez bien trouvé, hein, d'avoir la famille. Simplement, la famille, elle n'est pas complète. Alors, puisqu'elle n'est pas complète, on convoque celui qui n'est plus là par son portrait. C'est le tableau dans le tableau, une sorte d'abîme, si vous voulez. Hein. Voilà. C'est une autre manière de présenter la famille. Il y a aussi des portraits privés, mais qui sont des portraits privés qui ne montrent pas tout le monde sur un tableau, mais des gens différents dans autant de tableaux différents. Là, dans la famille Rivière, je vous montre le père. Dans la famille Rivière, je vous montre la mère. Et ça, vous n'aviez pas trouvé les vilains, là. Hein. Et je vous montre la fille, mais là, vous vous étiez rattrapé, vous aviez trouvé. Hein. Parce qu'avoir des portraits de famille, c'est pas toujours avoir un tableau sur lequel il y a tout le monde. C'est quelquefois avoir des tableaux différents, mais qui viennent en pendant les uns des autres. Hein. Là, je vous rappelle que là, on essaie de faire une encyclopédie de ce que c'est que le portrait. Hein. Il ne s'agit pas d'oublier des types de portraits. Hein. Voilà. Là, on est devant, on l'a vu, des portraits également de famille, donc des portraits qui ne sont pas officiels, où on vous montre se délassant dans un paysage, pendant une partie de chasse, deux aristocrates anglais. Mais quelquefois, il faut bien prendre le thé, n'est-ce pas, avec son petit chien. Hein. Et voilà, un tableau de Reynolds nous montrant Madame Abington, dans une pose tout à fait décontractée. Ça, c'était... dans la série, si j'ose dire, à quoi sert un portrait, la première réponse, le portrait intime, familier. Deuxième type de portrait que je vous propose de regarder et qui répond à la question, à quoi sert un portrait ? Ça. À quoi ça sert, ça ? C'est encore un portrait de famille. Donc ça sert notamment à évoquer cette idée d'une sorte d'intimité familiale, mais seulement... Oui, c'est révélateur de l'époque.
Mais un peu généalogique.
Parce que vous savez, quand au XVIIe siècle, c'est un tableau du XVIIe, hein, quand on voit ça, on n'est pas surpris de l'époque, puisque on est contemporain, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc quand au XVIIe siècle, quelqu'un du XVIIe voit ce tableau, il voit l'époque qui est la sienne. Pour lui, il n'y a rien de très étonnant. Qu'est-ce que ce tableau, par contre, va suggérer à quelqu'un qui, au XVIIe siècle, voit ce tableau ? Il va suggérer cette idée intime d'une famille réunie. D'accord.
Une généalogie.
Mais ça, on en a déjà parlé.
Une généalogie.
Alors, une généalogie, on en a un peu parlé aussi, l'idée des âges de la vie. Hein, un petit peu dit, cette dimension d'intimité familiale. Mais qu'est-ce que ça évoque encore ? Pardon ? Voilà. C'est ça, l'idée d'un statut social. Hein. C'est-à-dire que quand vous voyez ça... vous pouvez vous dire que vous êtes devant quel genre de famille, là ? Voilà, une famille bourgeoise, d'une certaine société, hein, tout ça se tient très bien. Hein, voilà. Y a donc, si vous voulez, une dimension d'évocation d'un statut social à travers un portrait. Un portrait, c'est aussi ça. Et là, voilà, une sorte de Tartarin, hein. Voilà, hein. Voilà encore quelqu'un qui nous est représenté. Un tableau comme ça, décidément, évoque là aussi quoi ? Le personnage, mais au-delà de ça.
La personnalité.
Ouais, personnalité.
Un art de vivre.
Oui. Mais je veux dire, tout le monde va à la chasse au lion, il n'y a pas de problème. Hein, au 19e siècle, vous, moi, tous, on va à la chasse au lion. Ça, évidemment.
La végétation n'est pas très africaine.
Pardon ? Voilà, toujours, décidément. Hein, on est là dans quelque chose qui, comme le tableau précédent, mais très différemment, hein, nous montre là aussi un personnage dans la société. On avait une famille bourgeoise, peut-être protestante d'ailleurs dans le tableau précédent, installée convenablement dans quelque intérieur d'Amsterdam. Hein. Là, nous avons je ne sais quel aventurier et quelques tartarins du 19e hein, qui a présenté devant sa dernière victime. Hein. On pose là le statut social des gens. Un portrait, ça sert à ça. Et ça... Il y a du monde. Il y a du monde. Je bouge. Pardon ? C'est l'atelier d'un peintre ? Êtes-vous d'un collectionneur? C'est, c'est la galerie d'un collectionneur. Il est où le collectionneur? On a du mal à le voir.
Il est en bas, tout seul, un peu isolé.
Là, en fait, il est juste devant. Hein. C'est lui le collectionneur. En fait, là, on a le collectionneur et on a quelqu'un qui lui montre un tableau pour qu'il l'acquiert. Voilà, le vendeur, sans doute. Hein. Ce collectionneur n'est ni plus ni moins que l'archiduc Léopold de Guillaume. Quelqu'un de tout à fait convenable. Hein. Quel est le but d'un portrait comme celui-là, d'un portrait un peu encombré d'un décor et d'attributs? Mais ça ne nous étonne pas. On a vu la dernière fois comment un portrait, souvent, était accompagné d'un décor et d'attributs qui se combinaient à un portrait lui-même. Tout ça, on possède maintenant cette idée-là. Quel est le but d'un portrait comme celui-là? À quoi sert ce portrait? Ce portrait, un peu perdu dans ce décor.
Montrer ses archives, sa richesse.
Voilà, montrer sa richesse. Hein. Montrer là aussi le statut de ce personnage. Hein. Même si vous ne saviez pas que ce personnage habillé de noir et l'archiduc Léopold de Guillaume, rien qu'en voyant sa collection, vous comprenez assez rapidement qu'on n'est pas là devant un pauvre mendiant, hein, mais devant quelqu'un qui montre son statut à travers sa collection. Il est riche, il sait collectionner, il a un peu de goût, visiblement, et un peu d'argent. À quoi sert un portrait? Nous avons vu les portraits familiaux, maintenant on regarde un autre type de portrait. Oui, voilà, c'est un tableau qui montre sa position sociale. Vous avez une idée de la position sociale qui peut être celle de ce personnage? Ah, ça pourrait être dans le droit.
Non,
c'est pas dans le droit. Alors, ça pourrait être un banquier, c'est pas non plus un banquier, mais ça pourrait.
C'est un journaliste ou un possesseur de journal.
Voilà, c'est un journaliste, un possesseur de journal, absolument. Hein. C'est un possesseur de journal. Hein. Hein. Et donc, ce personnage, qu'est-ce que son portrait évoque, montre? Qu'est-ce que vous ressentez, quoi? Il en impose, hein, par quoi, déjà? Voilà, il a les mains, là, comme ça, hein, sur les... Hein. Et puis quoi d'autre, encore?
Bien assis, le regard.
Bien assis, oui, le regard. Hein. Il vous cloue, en gros, sur la boiserie, là. Hein. Et puis quoi d'autre, encore?
Il en impose,
hein. Et puis il a les cheveux en bataille, il a la chance d'avoir des cheveux, lui. Alors quand il s'anime un peu, les cheveux sont en bataille, ce que vous voyez ici, là. Hein. Donc on sent que c'est un patron de presse, mais bon, d'une presse un peu engagée, quoi. Hein. On sent que ça y va, quoi. Hein. Alors, hein. Donc il est là dans la flamme de la presse et des articles qu'il doit publier. Hein. Un voyageur, c'est vrai. Alors lui, il ne va pas tirer les lions en Afrique, il a bien raison d'ailleurs. Il va chercher des sculptures où? En Égypte?
Non.
En Grèce? À Rome, absolument. Hein. À Rome. Hein. C'est un tableau de quelle époque? 18e. Regardez la console, hein, vous n'avez pas ça avant le 18e. Hein. Un tableau du 18e, absolument. Hein. Et ce genre de personnage qui va à Rome chercher quelques sculptures, ça peut nous faire penser à quoi? Pardon? Ouais, absolument. Un Anglais. Les Anglais ont adoré aller à Rome, faire le grand tour, hein, d'où vient le nom de touriste d'ailleurs. Hein. Voilà, donc quand on est un Anglais, on quitte ces brumes britanniques de temps en temps et on va faire le grand tour qui vous amène en Italie. Quand vous êtes un aristocrate anglais, vous avez les moyens de collectionner quelques sculptures à Rome, ben vous le faites, hein, et vous vous faites représenter à Rome par le meilleur portraitiste du temps. Et vous ramenez ça dans votre château anglais. Hein. Et après, quand d'autres Anglais viennent vous voir portraiturer ainsi dans le château, je peux vous dire que ça fait son petit effet. Hein. Donc voilà encore un tableau qui marque un statut social. Hein. Ce n'est pas le personnage d'avant, ce personnage de l'ingre, là, qui vous regardait avec ses cheveux ébouriffés, on est dans quelque chose de plus décontracté, mais qui montre la qualité intellectuelle et les richesses du personnage. Oui. À quoi sert un portrait?
À montrer sa richesse.
Voilà, là aussi, hein, on a un portrait effectivement d'un couple avec un enfant, mais qui montre de manière là aussi suffisamment à l'aise, hein, des gens tout à fait, j'allais dire tout à fait arrivés. On sent bien, on est à quelle époque là ?
En 17e.
Oui, c'est ça, fin 17e. Hein, à l'époque de quel roi ?
14, Louis XIV. 14,
hein. On est à l'époque de Louis XIV. Voilà sans doute quelqu'un qui, à l'époque du roi Soleil, n'est-ce pas, connaît quelques progressions sociales. Et puisque, ben, désormais, il appartient à la belle société du temps, il est représenté avec sa femme, avec son fils. Tout ça n'est pas trop rigide. Hein. Il faut quand même montrer un peu d'aisance. Hein. L'aisance qui sied aux gens qui ont les moyens. Hein. Et avec quelques petits accents un peu mythologiques. Vous voyez que la petite fille, c'est une petite fille. Hein, elle présentait un peu nue, comme quelques cupidons, n'est-ce pas, hein. Il faut un peu d'esprit dans ce genre de portrait, quand même. Hein. Voilà. Donc, une manière de présenter un statut social qui apparaît dans un tableau tel que celui-là. Oui, une sorte de guerrier. Pardon ? Non, pas espagnol. C'est vrai qu'il a une tournure bien espagnole. Mais on est dans le sud quand même. Italien, oui. Un portrait italien. Alors à quoi sert ce portrait ? Pardon ? Voilà. À montrer sa fonction, à montrer quoi encore ? Sa puissance, hein. Et même dans tous les détails, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, eh, c'est pas un hasard. Hein. Comme vous le voyez, il a un cache-sexe particulièrement proéminent. Hein, car l'idée de la virilité, n'est-ce pas, guerrière, est là fondamentale. Hein. On a beaucoup de tableaux italiens de cette époque-là qui montrent ça. Hein. Ça fait partie du truc. Hein. Il faut monter, n'est-ce pas, montrer le statut du personnage. Hein. Voilà quelques condottieri. Hein. Eh bien, un condottieri, c'est comme ça. Hein. Il est représenté de cette manière. Ah, pour être connu, c'est connu. C'est pas Rembrandt, mais c'est pas loin. C'est Hals, Franz Hals. Absolument. Alors, c'est pas des chirurgiens. Rembrandt a présenté les chirurgiens, mais généralement, il y a quelques cadavres disséqués au premier. Là, c'est un peu plus.
Des administrateurs de ville. Les administrateurs,
voilà,
d'une ville.
Exactement. C'est les administrateurs d'un hôpital, précisément. Hôpital. Hein. À quoi ça sert, un portrait comme ça ?
Corporation.
Pardon ? Voilà, c'est quelque chose qui permet effectivement, par exemple, si on l'accroche dans l'hôpital, de montrer quoi, finalement ? Oui ? De montrer ? Voilà, de montrer les dirigeants, et quand on les croise ensuite dans la rue, on se dit, oh là là, ce sont des gens importants. Toujours la même chose, ça montre le statut social. Le portrait, il a pour but, il a comme fonction aussi ça. Le portrait, il sert à affirmer une position sociale. Hein, c'est le deuxième élément, deuxième point important. Alors je vous montre les tableaux, mais avec les légendes. Hein. Voilà ce tableau d'Anthony Palamedes, hein, qui montre donc la famille qu'on a vue tout à l'heure. Un portrait de famille, mais qui montre une aisance bourgeoise, convenable. Hein. On est dans, je dirais, la présentation sociale. Hein. Là, idem. Ça, c'est un tableau d'Hyacinthe Rigaud. Vous connaissez ce peintre, hein. Le personnage qui est là, c'est Pierre-Frédéric Léonard. Il était l'imprimeur du roi. Comme vous l'avez, il n'est pas du tout noble. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui vient d'une origine relativement modeste, mais qui est devenu imprimeur du roi. Ça vaut bien se faire portraiturer par Hyacinthe Rigaud dans un portrait à la fois très élégant, mais en même temps un peu mythologico-bourgeois, si j'ose dire. Hein. Hein, voilà qui installe la position de l'imprimeur du roi. Hein. Là, ce tableau de Franz Hals qu'on vient de voir sont les régents de l'hôpital Sainte-Élisabeth de Harlem. Hein. Donc effectivement, quand on accroche ça dans l'hôpital, et qu'on va voir tel malade ou qu'on est malade soi-même, on voit tout de suite les personnages qui gèrent l'hôpital, et quand on les croise dans la rue, on voit que ces personnages sont bien importants, n'est-ce pas, hein, qui gèrent l'hôpital, c'est tout de même important. Et voilà ici un portrait de Bronzino, hein, vous savez, le fameux reître dont nous parlions tout à l'heure, hein, Guidobaldo della Rovere, une grande famille, notamment de comtes de Thiers, et on en a parlé. Voilà un puissant personnage, puissant dans tous les sens du terme, qui nous montre cette figure en armurée. Et revoilà notre archiduc Léopold Guignol, un tableau de David Teniers. Hein. Voilà. Et puis, vous retrouvez là notre noble anglais, Charles Joseph Crowell, dans ce tableau qui, de Pompeo Battoni, Pompeo Battoni, c'est vraiment le portraitiste italien qu'il fallait aller voir à Rome. Vous êtes un aristocrate anglais, vous allez à Rome faire vos emplettes pour acheter 3 statues de colonne et un sarcophage, vous vous faites portraiturer par Pompeo Battoni. Je vous laisse le tuyau. Hein. Et faites-le, parce qu'autrement, ça, comme on dit aujourd'hui, ça ne le fait pas. Il faut le faire, autrement, franchement, bon, ça n'irait pas. Et M. Ingres a fait M. Bertin, hein, ce patron de presse que nous avons évoqué tout à l'heure et que nous revoyons. Là aussi, une position sociale. Donc vous voyez que pour évoquer la position sociale, le statut, il y a mille manières. Hein. C'est soit M. Ingres, un portrait où il n'y a rien derrière, et met un bonhomme qui vous regarde comme ça avec sa figure massive, ou bien alors c'est l'archiduc de Léopold de Guillaume qu'on a du mal à voir dans une galerie super encombrée de tableaux, tellement encombrée qu'on n'arrive pas à savoir où il est. Hein. Donc vous voyez que le statut social, il apparaît dans plein de portraits, mais d'une manière à chaque fois différente. Et puis alors, le tableau d'Édouard Manet, hein. Voilà. Oui, c'est Manet, hein. Monsieur Pertuiset, le chasseur de Lyon. Notre tartarin de tout à l'heure.
La végétation n'est pas très orchidée.
Non, effectivement. Troisième ensemble d'œuvres, répondant toujours à notre question, à quoi sert un portrait? Ça sert à évoquer la famille, à suggérer l'intimité familiale. Un portrait, ça sert également à montrer le statut social, la puissance sociale des individus. Ça peut servir à autre chose.
Le portrait officiel du doge.
Alors, c'est effectivement le portrait officiel d'un doge. Qui dit doge, dit quelle ville?
Venise,
pardon. Oui, absolument. Loreda. Oui, absolument. Tout à fait. Donc, on est à Venise, c'est le portrait d'un doge. Et un portrait comme ça sert à quoi?
On l'envoyait dans les différentes administrations.
On pouvait faire ça. Et le but, c'était quoi? Oui, pardon. Voilà, il y a une dimension de portrait officiel, absolument. Hein. Et un portrait officiel qui, comme le suivant d'ailleurs, peut peut-être servir à quoi? Regardons ce portrait-là.
Non.
Car c'est un portrait. Eh oui.
Oui, mais il y a deux fleurs de couronne impériale.
Oui.
C'est la vie de naissance.
En quelque sorte.
À faire part.
En quelque sorte.
Ce serait le roi de Rome?
Absolument. Le roi de Rome, c'est qui?
Ben, le fils de Napoléon.
Le fils de Napoléon.
Marie-Louise. Ah,
ce que vous avez là, c'est le fils de Napoléon. Et ce tableau, réalisé par un peintre, alors là, tout le monde va le dire en cœur un instant, né en Saône-et-Loire à la fin du XVIIIe siècle. C'est... Eh non,
Prudhon.
C'est l'autre, Prudhon. Vous savez que nous avons deux peintres saône-et-loiriens fondamentaux, Greuze, Prudhon. C'est Prudhon. Prudhon. Donc voilà une œuvre de Prudhon qui nous montre le roi de Rome. Mais comment est-ce que Prudhon a représenté le dit roi de Rome? Moi, on m'aurait demandé de représenter le roi de Rome, j'aurais pas fait ça. Là, il le fait comment?
Oui,
il dort, il n'a pas de regard, oui. Comme l'enfant Jésus, absolument. C'est-à-dire que ce que vous avez là, c'est une sorte de métaphore entre le roi de Rome, le fils de Napoléon, qui a un petit rôle en Europe à l'époque, Napoléon, hein, et le Christ.
Mais en plus, comme végétal, il y a de l'olivier.
Oui.
Ça peut être une idée de paix.
Oui, la paix et l'espérance, oui, tout à fait. Alors, pourquoi est-ce que Napoléon... représenté par Prudhon, son fils, sous les atours, pourrait-on dire, de l'enfant Jésus.
Ah ben après 1802, ben de toute façon il est né après, oui.
C'est le seul descendant.
Ouais.
Mais peut-être pour raccrocher l'Église.
Alors, il y a en effet une manière, quelque part, de se rapprocher de l'Église, d'une certaine manière aussi de le déifier, et le but ultime, c'est quoi? Et pensez au doge de tout à l'heure, parce qu'on est là, comme vous l'avez remarqué, hein, je rassemble les portraits par, j'allais dire, famille. Hein. On a vu que le doge, il était là pour montrer son image officielle, qui il était, sa puissance. Là, pardon. Voilà, montrer ses successions. Autrement dit, il y a une volonté, quoi, derrière tout ça? Aussi bien pour le doge que pour Napoléon, qui a peint son fils sous la forme du Christ.
Règne.
Légitimité, mais tout ça, l'idée du règne, la légitimité, on pourrait dire qu'il y a une stratégie qui est de quel ordre ? Politique, exactement. Il y a une stratégie politique. Derrière ça, l'idée, c'est pas, bah, tiens, ce serait mignon d'avoir mon fils en enfant Jésus. C'est de montrer quelque part, n'est-ce pas, que finalement, le roi de Rome, c'est l'enfant Jésus que, d'une certaine manière, la religion adoube, n'est-ce pas, le successeur de l'empereur. Hein ? On est là dans un langage politique. Et ça, François Ier, par Plouet. Hein, célébrissime tableau. Alors là, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport, encore une fois, à quoi sert un portrait ? Fastoche. Se faire admirer. C'est essentiellement ça. Donc c'est un portrait qui a un rôle politique. Hein. Il montre le roi, il assied la figure du roi. On est là devant un portrait officiel qui montre bien qu'on a un célèbre portrait de Plouet. Et ça,
Louis XIV.
Louis XIV. L'orchestre de Louis XIV. Hein, on a vu que les portraits pouvaient être en pied, pas en pied, qu'il y avait toutes sortes d'attributs. Là, l'attribut juste d'un cheval. Bien.
Il a des bouclettes.
Oui, ah, la perruque, ça. Mais qu'est-ce qui vous inspire, ce portrait-là, par rapport aux autres portraits qu'on vient de voir et à la question qui nous anime, là, dans ce troisième chapitre ?
Toujours la puissance.
La puissance, hein. Et là, la puissance, elle est déclinée autour d'un thème bien visible.
Oui, mais...
Cavalier, conquérant...
Il n'a pas le costume de son époque.
Il n'a pas le costume de son
il
époque.
Il est en empereur romain.
Il est en empereur romain. C'est-à-dire que... Il y a deux minutes, Napoléon nous imposait, si j'ose dire, son fils en Christ. Là, on nous vend Louis XIV en empereur. Hein, vous voyez, hein, il y a quand même là aussi un message. Hein, mais le portrait, c'est ça aussi. Mao, au XXe siècle, n'a pas fait autre chose avec le portrait officiel qu'il a fait faire. Hein. Il y a une dimension politique. Là aussi, hein, elle est très claire. Louis XIV se fait représenter en empereur. Et là... C'est qui ? Henri VIII ? Eh ben non ! Henri IV ? Non plus ! François Ier ? Oui ! C'est François Ier. On le reconnaît avec son grand nez. Hein ? Le même grand nez que tout à l'heure. Parce qu'on a déjà vu François Ier, je vous le rappelle.
Mais moins,
qu'est-ce qu'il y a de plus ?
Pardon ? Moins officiel parce que de profil.
Exactement. Moins officiel parce que de profil. D'ailleurs, à votre avis... Quelle peut être la raison pour laquelle, tiens, c'est rigolo cette histoire.
Oh, il y a un pendant.
Non, il n'y en avait pas. Mais ça pourrait être le cas. Il pourrait regarder Madame François Ier qui serait en face. Mais non. Pourquoi est-il représenté de profil, à votre avis ? Pardon ?
Quelque chose qu'il fallait cacher.
Non, ça pourrait être une solution, mais c'est pas ça. Ce portrait, il a été fait par qui, peut-être ? Peut-être vous avez une idée. Un peintre français ? Anglais ?
Non, italien.
Italien, c'est un peintre italien. Célébrissime, oui, au XVIe siècle.
Léonard de Vinci.
Oui. Alors, je vous mets sur la fin. Un peintre vénitien du XVIe siècle. Non. Alors, c'est pas tout à fait Venise, Léonard de Vinci, mais c'est pas Léonard, hein ? Un peintre vénitien du XVIe. Il y a trois grands peintres à Venise au XVIe. Hein. Titien, Véronèse, Tintoret. Alors c'est lequel ? Titien, Véronèse ou Tintoret ?
Titien.
Titien. C'est le portrait de François Ier par Titien. Hein. Allez au Louvre, vous le verrez, puisqu'il est conservé chez nous, au Louvre. Alors, puisque ce portrait a été fait par Titien, sans doute à Venise, et qui présente François Ier, pourquoi il a représenté François Ier de profil ?
pour le mettre sur une pièce de monnaie après.
C'est l'inverse, mais c'est une bonne idée. C'est l'inverse. Parce qu'à vrai dire, Titien n'a jamais vu François Ier, et François Ier n'a jamais vu Titien. Alors aujourd'hui, vous comprenez, c'est très facile de faire un portrait. Vous prenez ces merveilleux appareils que vous avez tous dans vos poches, vous faites clic, et vous avez les portraits sous toutes les faces. Hein. Mais au XVIe siècle, c'est pas pareil. Au XVIe siècle, comment voyez-vous que Titien connaisse François Ier, hein? Alors, on a envoyé à Titien, enfin, c'est pas qu'on a envoyé, le tableau ici a été commandé par Spinello Aretino, qui est un écrivain du XVIe siècle, très proche de François Ier, qui voulait offrir à François Ier son portrait par Titien. Alors, il a envoyé à Titien une médaille représentant François Ier, et puisque dans les médailles, les portraits sont de côté, de profil, eh ben, Titien a présenté François Ier de profil. Il n'avait pas présenté de face, il ne savait pas à quoi il ressemblait de face. C'est quand même compliqué, d'accord, hein, voilà. Et alors, curieusement, c'est ce que vous disiez, madame, ça donne à ce portrait un côté moins officiel que l'autre. Vous vous rappelez du portrait de Clouet tout à l'heure, hein, qui nous présentait... Voilà, il en imposait, hein, avec ses manches bouffantes. Là, on avait le roi de France sous les yeux, hein. Là, on a un roi de France assez accorte, finalement, hein. Mais ça fait partie du truc, ça fait partie du message, hein. Le roi n'est pas que la figure du commandeur sur son piédestal, ça peut être également un personnage plus proche. Oh là là. Ouais, ça, c'est quelque chose, hein. C'est qui, ça? C'est Napoléon. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus? Oui, là, ils ont mis le paquet. Hein. Ouais. Ouais. Ah oui, alors il y a des attributs, il y a tout, il y a tout, il y a tout le décorum qui va. Ça marche. Ah oui, il y a tout. Il y a tout, il y a tout. Alors, à quoi sert ce portrait? Impressionné, hein. Voilà encore un portrait qui a un but vraiment politique. Hein. Et d'ailleurs, dans un tableau tel que celui-ci, cette impression est d'autant plus vive qu'elle nous fait penser à quoi? Bon, celui qui a présenté, c'est Napoléon, on est d'accord. Mais c'est que Napoléon, quelque part? La puissance, le maître du monde, qu'on peut comparer à qui? À une figure allégorique, peut-être. Zeus. À Zeus. D'ailleurs, regardez sur le piédestal, vous avez un aigle. L'attribut de Zeus, c'est quoi? C'est l'aigle. C'est d'ailleurs pour ça que Napoléon s'est donné cet attribut à lui-même. Et la figure que vous voyez là reprend textuellement, si j'ose dire, hein, le Zeus d'Olympie. Vous savez ce que c'est que le Zeus d'Olympie? Vous avez tous entendu parler des sept merveilles du monde. Hein. Il y avait l'Antiquité, sept merveilles du monde. Vous les connaissez? Le phare d'Alexandrie, les pyramides d'Égypte, le mausolée d'Halicarnasse, etc. Bien. Parmi cette merveille du monde, il y avait le Zeus d'Olympie, une immense statue de X mètres de haut, faite par Phidias en ivoire et en or, une statue chryséléphantine. Hein. Dans l'Antiquité, cette statue était tellement extraordinaire qu'elle était une des merveilles du monde. Hein. Eh bien, on sait que cette statue qui n'existe plus aujourd'hui, mais dont on a des reproductions faites à l'époque romaine, en gros ressemblait à ça. Donc, si vous voulez, ici, le peintre qui a fait ce portrait a représenté Napoléon comme Zeus, et comme le Zeus d'Olympie, la statue de Phidias, une des sept merveilles du monde. Donc, vous voyez, il y a du lourd derrière ça. Hein. Si ce n'est pas un portrait politique, je ne vois pas ce que c'est qu'un portrait politique. Et ça, oui, Saint-Jean-Baptiste, absolument. Saint-Jean-Baptiste seulement. Exactement. Si je vous le mets là, c'est que c'est un portrait. Et que... Mais quel portrait? Autrement, c'est des Saint-Jean-Baptiste que vous dites, ce serait pas un portrait, il serait pas là.
Quel l'oiseau qui part derrière?
Ouais, c'est un perroquet. Le perroquet, c'est l'animal de l'éloquence. Saint-Jean-Baptiste est éloquent, il prêchait. Mais il n'y a peut-être pas que Saint-Jean-Baptiste qui est éloquent.
Donc c'est quelqu'un d'autre qui est sous voilà. Les traits de Jean-Baptiste.
Exactement. C'est quelqu'un d'autre qui a présenté sous les traits de Saint-Jean-Baptiste. Dans les peintures que je vous ai présentées précédemment, vous avez un indice qui vous permettra facilement de le retrouver.
Il y a le nez.
Ouais. Et ben voilà. Non seulement on dirait François Ier, mais c'est François. C'est François Ier sous les traits de Saint-Jean-Baptiste. Vous voyez qu'entre Napoléon qui se fait représenter en Jupiter, son fils en Christ, et François Ier en Saint-Jean-Baptiste, la palette est large. Hein. Prenez-en de la graine. Hein. Voilà, autrement dit, à quoi sert un portrait? Un portrait peut servir à souligner un rôle politique. Alors, je remontre rapidement ce qu'on a vu. voilà notre doge, vous aviez raison, hein, Loredane, Leonardo Loredane. Vraiment, quand on voit ce personnage, on comprend quand même que c'est un personnage qui a un rôle politique important à Venise. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Hein. François Ier normal, si j'ose dire. François Ier en Saint-Jean-Baptiste. Hein, vous voyez que c'est le même. Hein. Ce tableau est rentré dans les collections du Louvre récemment. Ouais, il y a quelques années. Et François Ier, Particien, et nous en avons déjà parlé. Le Louis XIV en empereur romain, par Girardon, nous l'avons vu. Le Napoléon II Ingres, hein, c'est Ingres qui a fait ce Napoléon Pantocrator, peut-on presque dire. Et le roi de Rome, par Pierre-Paul Proudhon, notre cher Saône-et-Loirien. Mais passons à la quatrième étape. Parce qu'un portrait, à quoi ça sert ?
Louis XIV.
Louis XIV. Louis XIV.
Oui, mais quand il, au cours d'une de ses campagnes, pour illustrer une bataille quelque part.
Oui.
En Flandre, je crois.
Une bataille. Alors, non, c'est pas en Flandre.
Alors.
C'est... Peut-être que vous reconnaissez un peu avec ce qui se passe à l'arrière, encore que je sois un peu outré. C'est pas si loin d'ici.
Ah, c'est pas la Franche-Comté.
C'est la prise de. Besançon. Hein, prise de Besançon. Donc c'est Louis XIV à la prise de Besançon. Quel est le but d'apporter comme ça ?
Célébrer la victoire.
Voilà, c'est de rappeler un événement important. Effectivement.
Le sacre.
Là, tout le monde sait le couronnement de Napoléon par
Joséphine.
Ça, pas de problème. Quel est le but d'un tableau comme ça ? Voilà, c'est comme le précédent, hein. C'est un tableau qui a pour but d'installer l'histoire, de célébrer l'histoire. Hein. On célèbre la prise de Besançon, on célèbre le couronnement de Napoléon.
Mais le couronnement, là, c'est aussi un peu politique quand même.
Ah, mais tout à fait. À quelques fois, vous avez plusieurs ingrédients, vous avez raison, hein. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que le couronnement, c'est tout à fait politique, hein. Tout comme également, ça a la volonté de célébrer un élément historique. Les catégories que là nous voyons, quelquefois, peuvent s'ajouter les unes aux autres. Hein. Vous avez tout à fait raison. Hein. On pourrait même dire que c'est presque familial, puisqu'il y a toute la famille de Napoléon au couronnement. Sauf que c'est un grand tableau, alors il n'est pas très intime. Hein. Mais il en existe des gravures. Et ça ? C'est pas sympathique, ça ?
Non, parce que... Enfin...
Alors, qu'est-ce qui se passe ?
Il y a Marie de Médicis.
On est dans les... Oui, il y a Marie de Médicis.
Et c'est Rubens.
Et c'est Rubens. Donc c'est un tableau de Rubens. On voit effectivement Marie de Médicis. Et si on voit Marie de Médicis, il y a qui en face d'elle ?
Henri IV.
Henri IV, son mari. Hein. On a Marie de Médicis et Henri IV. C'est une œuvre de Rubens. Cette œuvre de Rubens vous dit quelque chose ?
Il est une sorte d'apothéose.
Voilà. Effectivement. Hein. C'est effectivement un tableau qui a été fait pour le palais du Luxembourg à Paris, qui n'a pas toujours été le siège du Sénat, je vous rappelle. Hein. Il se trouve que Marie de Médicis avait, si j'ose dire, élu domicile au Luxembourg. Hein, et elle avait fait réaliser par Rubens pour Luxembourg 24 tableaux, si ma mémoire est bonne, qui sont tous au Louvre. Hein. Si vous allez au Louvre, vous ne pouvez pas manquer la galerie de Rubens. Hein. C'est des tableaux énormes, ça fait 4 mètres de haut quand même. Hein. Rubens a fait donc toute une série de tableaux, c'est monumentalissime, et ça raconte l'histoire de Marie de Médicis. Et là, ça raconte quoi, l'histoire de Marie de Médicis ? Son mariage, exactement. Vous avez le mariage de Marie de Médicis à gauche, et d'Henri IV à droite. Mais est-ce qu'il ressemble vraiment tout à fait à Marie de Médicis et Henri IV ? Leur tête, oui, mais le reste ? Non, ils sont présentés de quelle manière ? Voilà, l'antique comme des dieux. La déesse à gauche, la Marie Médicis, c'est quelle déesse ? Regardez les attributs. Un pan. Quelle est la déesse qui a un pan comme attribut ? Junon. Hein ? Et là, le dieu qui est là, qu'est-ce qu'il a sous les jambes là ? Un aigle. Quel est le Zeus, hein, Jupiter, hein. Donc vous avez Jupiter et Junon, les rois de l'Olympe, hein, monsieur et madame Olympe, si j'ose dire. Hein, voilà. Donc vous voyez que le roi et la reine sont représentés comme des dieux. Hein. Qu'est-ce que vous voyez là au premier plan ? Un char tiré par des lions. Et sur le chat, il y a quoi ? Une dame, une allégorie. Cette allégorie, en fait, je vous le dis, parce que ce n'est pas si évident à comprendre, c'est la représentation allégorique de la ville qui est derrière. Et il y a même un petit jeu de mots.
Lyon.
La ville qui est là, c'est Lyon. Voilà. On peut être Rubin, c'est avoir un peu d'humour. Hein. Voilà. Ça n'est pas interdit. Hein. Donc là aussi, on a un tableau par rapport à ceux qu'on a vus précédemment, le Sacre de Napoléon, Louis XIV à Besançon. Un tableau qui a quelle portée, hein, avec les 24 tableaux qui allaient avec. Voilà, c'est toujours des tableaux qui ont effectivement une volonté de montrer des événements, des grands moments, d'inscrire l'histoire. Hein. Voilà, absolument. Ça se passe où, ça ?
Jaffa.
En Égypte. Hein. J'en ai parlé un peu l'autre jour dans mon cours à l'UTB pour ceux qui y étaient. Hein. Ce tableau présente l'épisode des pestiférés de Jaffa. Hein. Le moment où Bonaparte, au moment de l'expédition d'Égypte, hein, va visiter les pestiférés. Hein. Alors un tableau comme ça, on reconnaît, vous avez tous reconnu Bonaparte au centre. Il hein. ne faut pas être grand clair pour voir ici Bonaparte. Hein, et les pestiférés autour, qui ne vont pas très bien tous. Hein. Bon. Quel est le but d'un tableau comme ça ?
Propagande.
Propagande. Hein. On est là dans quelque chose qui, à nouveau, hein, est à la fois entre le tableau politique, comme on a vu précédemment, mais qui a pour but, ce tableau doit faire 6 mètres de long, hein, de montrer, hein, de montrer dans les siècles, vous voyez que deux siècles après, on en parle toujours, deux siècles et demi, je ne sais plus, de montrer un fait historique important. Bonaparte qui va visiter les pestiférés. C'est quand même assez gonflé, si vous voulez. Hein. Ben voilà un événement historique qu'il faut marquer dans le marbre ou qu'il faut peindre sur un tableau. Les tableaux, ils ont véritablement les portraits pour but de célébrer l'histoire. Alors je vous repasse les quelques tableaux. Hein. Voilà la rencontre d'Henri IV et de la reine Marie de Médicis à Lyon en 1500. Là, c'est Van der Meulen avec la prise de Besançon par Louis XIV. Les pestiférés de Jaffa visités par Bonaparte par Gros. Et le Sacre de Napoléon, vous connaissez, de David. Cinquième, il ne reste plus que trois. Hein. On va être à peu près dans les temps. Cinquième domaine, toujours pour répondre à la question à quoi sert un tableau ? Qu'est-ce qui se passe là ? Il baille. Ouais. Il baille. Et là, Archimbold, tout ça. Et ça, c'est un portrait. Eh oui. Eh oui. Alors justement, entre ce portrait-là et celui-là, qu'est-ce que vous pourriez dire dans, pour répondre à la question, à quoi sert un portrait ? Ah, je vous en sers un autre, si vous voulez. Voilà, caricature. Hein. Voilà. Et un autre ? Ça va peut-être un petit peu plus loin que la caricature.
Ça monte un état d'esprit. Elle
est malade. Oui, ou bien une manière...
À l'expression d'une pathologie.
Oui.
Parce que c'est à la folle.
Oui, sauf que là, en l'occurrence, la personne qui est ici représentée est tout à fait, entre guillemets, normale. Hein, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que d'être normal, finalement. Mais bon, disons qu'elle l'est. Là... Elle joue le rôle de quelqu'un d'autre. Ce tableau, il s'appelle la somnambule ou la voyante. Hein, c'est un tableau de qui ? Vous avez une idée ? Non. Il y avait la signature.
Courbet ?
Courbet. Hein, tableau de Gustave Courbet, qui a représenté sa sœur Juliette, Juliette Courbet, et lui fait jouer le rôle d'une somnambule, d'une voyante. Hein, voilà. Donc finalement, quel est le lien entre ça, 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 ça ?
Des rôles.
Voilà, des rôles. Et puis ça.
Ah oui, tête d'expression.
Encore un bailleur.
Oui.
Vous connaissez l'auteur de ça ?
Il en a fait une ribambelle.
Une ribambelle.
En sculpture, justement.
Absolument.
Je sais plus.
Ouais. Il a un drôle de nom. On va en parler tout à l'heure. Non. Donc finalement, quel est le but ? Je ne sais pas si j'en ai mis encore un autre. Ah oui,
ah,
ça.
Oui.
C'est pas beau, ça ? Finalement, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme point commun entre tous ces tableaux-là, caricature, vous avez raison, hein, mais peut-être pas que la caricature. Ça va un petit peu plus loin que ça.
La rose.
Voilà, le jeu d'un rôle. En quelque sorte, on essaie d'aller au-delà d'une réalité, quoi. Finalement, jouer un rôle, c'est ça. C'est pas rester dans sa réalité quotidienne, c'est aller au-delà, c'est transgresser la réalité, d'une certaine manière, hein. Ben finalement, c'est ce qui se passe. Là, ce personnage, il est très outré. Hein, il est en train, normalement, on ne présente pas quelqu'un en train de bâiller. Et ben là, si. Hein. Donc, on transgresse d'une certaine manière. Alors là, c'est carrément le cas. Hein. Ça représente un empereur du Saint-Empire romain germanique qui l'est fait en légumes. C'est un peu spécial. Ça, vous savez qui est l'auteur de ça ? Daumier, Honoré Daumier. Hein. C'est un des parlementaires. Vous savez qu'Honoré Daumier, on devrait s'en inspirer aujourd'hui, avait représenté tous les parlementaires sous forme de caricature. Voilà l'un d'eux. Hein. C'est une sculpture, hein, en terre crue, peinte. Hein. Voilà, c'est un des bustes des parlementaires. Hein. Donc vous voyez qu'il y a toujours cette idée. La caricature, c'est la transgression de la vérité, finalement. Hein. Eh bien, on a ici ce cas-là. Hein. Donc même chose avec ça. La dernière, c'est ça. Là, c'est pareil. Hein. Au lieu, finalement, de nous représenter la femme, j'allais dire, comme ça, devant nous, avec son chat, vous voyez que l'artiste a fait en sorte de couper le visage en deux. Hein. Toujours une manière de jouer avec la réalité. Alors, quelquefois, on y joue carrément et on fait un personnage en légumes. Quelquefois, on est plus léger. Et pour transgresser cette réalité, on met un rideau devant la moitié du visage, si je veux dire. Hein. Vous voyez qu'il y a mille manières de transgresser cette réalité. Hein. La caricature en est une manière outrée. Mais là, cet artiste s'appelle Rollin, qui est un Suédois. Cet artiste transgresse la réalité, mais d'une manière finalement très minimale. Hein. Transgresser la réalité, ce n'est pas forcément faire une caricature. À quoi ça sert un portrait ? Ça sert aussi à transgresser la réalité.
Et les grotesques ?
Ben c'est, alors, les grotesques, ça, c'est encore autre chose. Ce qu'on appelle véritablement grotesque au sens propre du terme, hein, c'est plutôt des éléments décoratifs. Et on appelle grotesque précisément ces motifs décoratifs tirés de l'Antiquité. Et ce qu'on les appelle grotesques, c'est qu'on avait trouvé dans des grottes, d'où le mot grotesque. En fait, c'est à Rome, au XVe et XVIe siècle, au moment où on commençait à graboter le sol et à trouver dans des ruines antiques qui, étant ruinées, étaient des sortes de grottes, qu'on commençait à trouver des peintures. Hein. Ces peintures représentaient des arabesques, des figures. Et tous ces motifs décoratifs trouvés dans des grottes, on les appelait grotesques. Voilà. Hein. Mais donc, alors après, il y a le mot grotesque. On parle de quelqu'un qui est grotesque. Hein. Mais ça, toujours. En histoire de l'art, les grotesques, c'est ça. C'est des motifs décoratifs tirés de la peinture antique. Voilà, donc là, vous avez le portrait de l'empereur Rodolphe II en légumes, montrant Vertumnus, qui est un dieu antique des saisons et des légumes. Voilà ce tableau d'Alexandre Rollin, qui est un peintre suédois, mais qui a beaucoup travaillé en France au XVIIIe. C'est son épouse. Vous voyez, au lieu de faire poser son épouse, comme il l'a fait dans notre tableau, je vais dire tout simplement, ben, il modifie la réalité en lui mettant un voile sur la moitié du visage. Vous voyez que cette modification-là n'est pas que outrée, comme avec Ducreux dans ce tableau-là, hein, ou comme avec Messerschmitt, c'est le nom de ce sculpteur viennois, hein, autrichien du XVIIIe, Messerschmitt. Alors, il a fait toute une série, un effet de bus comme ça, qui sont généralement son propre portrait, mais de ça nous reparlerons. Et puis Daumier, on en a parlé, et Courbet, la voyante. Alors on termine très vite, il est juste la nuit, hein, avec les deux derniers chapitres, et on va vite, le sixième, qui a toujours la question « À quoi sert un portrait ?» Gilles de Watteau, ça va. Hein. À quoi ça sert, ça ? Je peux peut-être vous montrer le suivant ? Un enfant ?
Mort,
absolument. Je vous montre tous, peut-être, et puis on va voir quel est le point commun entre tout ça. Je vous les montre, on viendra dessus. Oh, il y a des biens vivants. Alors, quel est le point commun entre tous ces tableaux-là ? Pas tous. Vous voyez, là, c'est vivant. Hein. Et là aussi. Il s'agit finalement partout de la même chose. Mais l'objet est différent. Bon, dans le portrait d'enfant mort, l'idée, c'est quoi ? Voilà, de garder le souvenir de l'enfant, hein, de rendre hommage, en quelque sorte. Hein. Voilà. Là. Là aussi. Hein. Et de quoi ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Vous savez qu'on appelle ça le Gilles, mais en fait, c'est un Pierrot. Hein. Voilà, c'est un Pierrot. C'est pas un Gilles, hein, c'est un Pierrot. Les Gilles, ils ont... Enfin, vous connaissez, c'est pas pareil. Hein. On l'appelle le Gilles. Oui, voilà. En fait, c'est une assemblée de comédiens, parce que vous n'en avez pas qu'un, vous en avez cinq. Hein. Bon. Et en fait, l'idée, c'est de célébrer, de rendre hommage, de rappeler, de garder le souvenir d'une troupe de comédiens. Et là ?
Là, il y a au moins un peintre.
Ouais. Ben voilà. Là aussi, c'est la même chose. Hein. C'est des peintres qui sont réunis et l'idée est de célébrer, de garder le souvenir, se remémorer, de rendre une sorte d'hommage hein, à cette bande de copains d'atelier. Hein. Qui, vous voyez un peintre à gauche, mais on a deux autres à droite. Vous savez, ils ont en plus des perruques, c'est vrai qu'on adore ça dans les ateliers. Hein. On se plante une perruque sur la tête, on se drape dans une toge à l'antique. Enfin, dans les ateliers de médecins, c'est comme de peintre. C'est comme dans les amphithéâtres des carabins. Hein. On fait des tas de bêtises, hein. On s'amuse, quoi. Voilà. Hein. Et ben voilà, c'est ce que vous avez là. C'est une sorte d'hommage à cette sorte d'amitié picturale entre peintres d'une même génération. Et là, c'est quoi ça ?
Un portrait de...
Alors c'est vrai que ça ressemble un peu à une confrérie à la Franzals de tout à l'heure. Hein. Vous avez raison.
Oui.
Mais qu'est-ce qui se passe au centre ?
Mais il y a le portrait de la croix.
Il y a le portrait de la croix au centre. Et autour, toute une série d'artistes, en tout cas. Vous reconnaissez celui-là ?
Manet.
Vous reconnaissez celui-là ?
Baudelaire.
Baudelaire. Hein. Et peut-être vous reconnaissez moins célèbre celui-là ? Le peintre américain Whistler. Et celui-là, qui est l'auteur de la peinture elle-même ?
Ah, le requin.
Oui.
Avec chemise blanche.
Pardon ?
C'est le seul qui a une chemise blanche.
Oui. Ah oui, c'est le peintre en cours de travail. On verra tout à l'heure. Mais le but d'un tableau tel que celui-là, c'est quoi, à votre avis ? Voilà, il célèbre la mémoire de qui ? De Delacroix. Hein, c'est un hommage à Delacroix. Là ? C'est quoi ça ? Marat, ce tableau était fait pour quoi ? À quoi ça servait ? Pour se souvenir. Et d'ailleurs, on l'avait mis où, ce tableau ? Il était où ? Il avait été fait pour être mis où ? À l'Assemblée nationale. Vous aviez de chaque côté de l'estrade, à l'Assemblée, deux portraits, dont l'un était celui-là, le portrait de Marat. C'est donc effectivement une célébration, un hommage rendu à un des pères de la République. Et là... Vous connaissez dans le fond le personnage ? Raphaël, le peintre, vous savez. Et qu'est-ce qui se passe là ? Un élève ou un ami ?
Voilà. Oui, mais alors, qui a pointe l'index ?
Oui, alors on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. C'est un peu la même chose que tout à l'heure. Vous vous rappelez du portrait où on voyait les peintres dans un atelier ? Eh bien, c'est la même chose. L'idée, c'est de célébrer l'amitié, d'une certaine manière. Parce que ces portraits, ils servent aussi tout simplement à rendre hommage. Alors, c'est rendre hommage à l'amitié. Alors, c'est deux artistes au XVIe siècle. Ça, c'est François-André Vincent, vous savez, un peintre dont je vous ai sans doute déjà parlé, de la fin du XVIIIe et du début du XIXe. Qui ici donc montre lui-même et des amis, des copains d'atelier, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors c'est quelquefois carrément un hommage du docte. Hein. On se rassemble sous la bannière du grand modèle qui est ici de la croix. Quelquefois, c'est non plus des peintres, mais des comédiens qui, de la même manière, n'est-ce pas, se font portraiturer, une manière de rendre hommage à leur amitié, au spectacle, à la troupe qu'ils ont réalisée. Et puis, c'est rendre hommage à des grands hommes, hein, des grands personnages. Alors, des grands personnages bien connus, Marat, ou bien des personnages anonymes, comme cet enfant mort. Rendre hommage. Dernier chapitre. vous les montre tous, il y en a peu, et ce sera simple. Ouais. Voilà. L'idée, en fait, c'est d'incarner une dévotion. C'est effectivement tout à fait religieux. Vous reconnaissez ces quatre tableaux. Hein. Le but, c'est quoi, là, dans un modèle que celui-ci? Le portrait, il est où? C'est le personnage en blanc, effectivement. Hein. C'est le deuxième en partant de la droite. Hein. C'est un donateur. Voilà. Et puis, il est devant la Vierge Marie, il y a deux saints, à droite et à gauche. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit, là? Alors, la Vierge à l'enfant, et puis une dame avec deux enfants.
Non, mais c'est la femme de Louis XIII, je ne trouve plus son nom.
Voilà, exactement. C'est effectivement Louis XIV qui donne sa couronne et son sceptre à la Vierge. Absolument. C'est un tableau de dévotion. Absolument. Ben là, c'est pareil, effectivement. En fait, ça, c'est un tableau assez marrant. C'est un tableau d'un artiste nordique du XVIIe siècle qui s'appelle Doumer. Et qui représente une famille, hein, vous reconnaissez les quatre portraits à droite, monsieur, madame, les deux enfants, hein. Il se trouve que cette famille, visiblement, avait eu des problèmes pour avoir des enfants, finalement ils en ont eu, et ils se sont fait représenter sous les traits de deux personnages bibliques, hein, qui eux-mêmes, il est dit dans la Bible, ont eu du mal à avoir des enfants, finalement en ont eu, et en ayant eu, ils se sont voués à Élie. Et là, c'est la même chose. Ils reprennent, si vous voulez, la peau, si je veux dire, des deux personnages bibliques et viennent rendre une dévotion à Élie. C'est décidément une manière d'incarner une dévotion. Et ça, ce genre de diptyque, vous connaissez au Moyen-Âge, il y en a plein. Hein, on a le donateur qui rend sa dévotion à la Vierge. Donc, décidément, les portraits servent également à incarner une dévotion. Je vous montre les derniers avec la légende. Ça, c'est un blond de Van Eyck. Ça, c'est Roger van der Weyden. Philippe de Champagne. Et Lambert Doumer. Voilà. Et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, on ira tout à fait dans d'autres choses, mais je ne vais pas vous dire sur quoi on s'interroge. Ce ne serait pas du jeu, parce que vous seriez capable de réviser avant de venir. Ce n'est pas le but du tout.